faut pas oublier qu'en 2012, quand l'impact est arrivé, on avait 13 000 détenteurs de billets de saison comme objectif. On n'a toujours pas passé le cap des 10 000, puis on est rendu en 2020. Donc, à quelque part, il y a eu un décalage entre les attentes puis les résultats et ce qui a été fait entre-temps pour pallier à cet écart-là.
Bienvenue au 26e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerçant en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Devenu le sport amateur le plus pratiqué au Québec, le soccer est maintenant rendu un incontournable dans le paysage sportif québécois. Avec plus de 200 000 joueurs amateurs actifs, un club professionnel qui évolue depuis 8 ans maintenant dans la plus grande ligue en Amérique du Nord, on peut dire que le Québec a fait un gros pas par en avant au cours des dernières années afin d'améliorer son offre soccer. Maintenant, qu'en est-il du volet économique? Est-ce utopique de penser qu'un club comme l'Impact de Montréal, qui perd des dizaines de millions de dollars à l'année, a les moyens de rester dans la métropole? C'est la discussion que je vais aborder aujourd'hui avec mon invité du jour, Olivier Brett. Olivier, qui est une figure reconnue au Québec quand on parle de soccer, va nous expliquer aujourd'hui les erreurs que l'Impact ne doit pas répéter dans les prochaines années, la préparation rigoureuse que le Canada doit avoir afin de bien organiser la Coupe du Monde 2026, ainsi que certaines anecdotes plus croustillantes les unes que les autres sur son ascension personnelle comme journaliste soccer numéro 1 au Québec. Sans plus attendre, ma discussion avec Olivier Brett. Olivier Brett, tu es analyste soccer chez RDS depuis plusieurs années maintenant. À chaque semaine, tu couvres avec ton équipe les plus grands événements de foot au monde, comme la Coupe du Monde de soccer, la Ligue des Champions, l'Euro, bref, les incontournables. Avant ça, tu couvrais à TVA Sport les différents matchs de l'Impact. Et on peut également te retrouver à la radio 91.9 où tu y livres une chronique hebdomadaire. Olivier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation. Là, tout d'un coup, avec ce rappel de toutes les choses que j'ai l'habitude de couvrir, je m'ennuie un peu. Je suis bien heureux de te parler, mais j'ai hâte que ça revienne un petit peu à la normale parce qu'on couvre pas grand-chose par les temps qui courent.
Ben là, c'est ça. Il doit pas avoir grand-chose à couvrir, effectivement, en ce moment. Puis c'est bon parce qu'on va couvrir un petit peu plus, toi, ce que tu as fait dans les dernières années.
Oui.
Bon, moi, je te cacherai pas, je me fais un plaisir personnel en t'invitant aujourd'hui. Moi, je suis un très grand fan de soccer, un très grand amateur. D'ailleurs, t'as été mon coach même quand j'étais plus jeune.
Vas-y, t'étais sur le point de dire la chance de me coacher. Oui, j'ai eu la chance de te coacher. T'étais pas pire partout comme joueur.
puis mon objectif aujourd'hui, Ali, c'est d'analyser un petit peu la croissance, voire même l'hypercroissance que le soccer a eu au Québec dans les dernières années. Mm-hmm. Ce que je vois en ce moment, c'est clairement pas ce que j'ai vu moi quand j'étais un petit peu plus jeune. Mais avant qu'on regarde ça ensemble, comme je l'ai dit, t'as été mon coach. Maintenant, ouais. T'es rendu une figure quasiment incontournable du soccer au Québec. Peux-tu me dire comment tu t'es rendu là? Comment que le parcours de Olivier Brett a évolué à travers les 5-10 dernières années?
Wow! Les 5 dernières années, c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de mon passage à RDS et du fait qu'avant, j'étais à TVA Sport. C'est deux moments qui sont marquants pour des raisons bien différentes. D'abord, il y a 5 ans, au mois de janvier, c'était le 5e anniversaire de mon passage sur les ondes de RDS parce que j'ai fait mes débuts à TVA Sport. Tu sais, des fois, il y a des parcours comme ça où tu te dis, si ça avait été à l'envers, je suis pas certain que ça aurait été possible. Et c'est la conviction profonde que j'ai à l'époque TVA Sport, alors que moi, j'étais entraîneur adjoint de l'équipe réserve à l'Impact. J'étais directeur des écoles de soccer aussi à l'Impact. Et tout bonnement, tu sais, pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai fait toute ma vie dans le soccer, oui, mais j'ai des études en histoire. Tu sais, j'ai pas des études en communication, j'ai pas fait pro-média, chose que beaucoup de collègues dans les médias ont fait. Je suis pas allé à l'école ATM, le cégep à Jonquière, pour peaufiner mon métier de journaliste ou de chroniqueur sportif. Moi, c'est complètement champ gauche. Cette opportunité-là qui s'est présentée, c'était en 2011 et je revenais justement d'un match sur la route avec l'équipe réserve, puis les pros à l'Impact jouaient au Stade Saputo. Puis ben on a décidé plutôt que de rentrer à la maison, ben tu sais quoi, on va rester puis on va tomber en vacances un peu parce que des journées de vacances, je te confirme, quand t'es entraîneur d'une équipe réserve d'un club pro, il y en a pas beaucoup. Donc, je m'installe sur la terrasse au stade Saputo avec Claude Pinard, qui est chez Saputo maintenant, mais qui était VP marketing du club à l'époque. Et ben, on ouvre une bière, puis on regarde le match de la terrasse présidentielle, de la terrasse de Joey Saputo. Puis, tout bonnement comme ça, avec aucune intention derrière la tête à ce moment-là, mais Claude commence à me poser des questions. Pourquoi un tel fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça sur le terrain? Puis, tu sais, je réponds à des questions, puis je rentre à la maison sans y penser après le match. Puis, deux semaines plus tard, on m'invite dans le bureau de Richard Legendre, qui était VP exécutif, et de Claude, le VP marketing. Et ils me disent, là, on a besoin de tester ton niveau de stress. Fait que là, je te confirme, tu sais comment ça fonctionne dans le milieu des affaires ou dans le milieu corpo. Tu commences à te demander, c'est quoi le dossier que tu as échappé? Puis tu te dis que tu as fait une boulette à quelque part que là, on veut adresser. Finalement, c'était pas ça. On m'a demandé, serais-tu intéressé à être analyste pour des matchs de soccer à la télévision parce que la chaîne TVA Sport allait être lancée quelques semaines après. Puis c'est comme ça que ça a commencé mon aventure à la télé.
Fait que, au lieu d'aller chez toi, après une game de l'équipe réserve, aller au Stade Saputo, ça t'a amené un peu à devenir analyste. C'est ça que tu es en train de me dire, là.
Pas un peu. Ça m'a...
100%.
100%. Mais tu sais, pour remettre du contexte, puis on verra au cours des prochaines minutes, là, tu sais, je veux pas accaparer tout ton temps tout de suite en partant, mais c'est intéressant parce que d'un point de vue humain, il y a des moments comme ça dans une carrière où tu te dis, si ça m'avait été présenté il y a un an et demi, soit j'aurais dit non parce que j'aurais pas eu le courage, parce que je le répète, là, moi j'avais zéro expérience. Puis on m'a planté là à la télé avec mon collègue à l'époque, Frédéric Laure, puis on nous a dit, allez-y les boys, vous faites de la TV maintenant. Là. C'était vraiment l'étendue de ma formation. Ça a été de me mettre des telex dans les oreilles puis de me dire, ta caméra est là, vas-y mon grand. Donc, je pense qu'un an et demi plus tôt, si c'était pas du fait que j'avais fait beaucoup de travail sur moi, j'en ai fait énormément au cours des 10 dernières années pour voir où est-ce que je me mettais des embûches qui m'empêchaient de vivre des expériences comme celle-là, celle qui me faisait peut-être éviter des opportunités quand on me les présentait parce que j'étais pas certain d'avoir la confiance ou le bagage ou ce qu'il fallait tout simplement pour passer à travers. Je suis convaincu que j'aurais dit non à cette offre-là, puis pourtant, ça a été le contraire. Je savais que ça me faisait tellement peur en dedans quand on m'a offert ça. J'ai dit oui, let's go, on va voir ce que ça donne. Puis jusqu'à date, là, on n'est pas loin de 10 ans plus tard, ça donne quelque chose de pas pire.
Ah, c'est malade, intéressant. Puis je suis curieux, parle-moi un petit peu de l'évolution, la learning curve que tu as faite, parce tu peux le mentionner. On t'a placé, puis on a dit, ah ouais, vas-y mon homme, let's go, là, couvre les matchs de soccer, puis fais ton mieux. Puis de toute façon, j'imagine que même eux, à un certain point, c'était la première fois qu'il allait avoir des gens qui allaient couvrir des matchs de soccer, donc il y avait peut-être pas énormément d'expérience non plus à dire, puis à donner des directives claires. Es-tu capable de nous dire un petit peu des anecdotes, comment tu as été capable d'évoluer à travers le temps par rapport à ça?
Ouais.
On a beaucoup, hein?
On va avoir besoin d'une couple de podcast, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais ce qu'il faut comprendre, tu sais, puis je te disais tout à l'heure, RDS puis TVA Sport, c'est deux entreprises qui sont dans la même industrie, mais en même temps, leur approche, leur entrée dans le milieu a été vraiment différente. TVA avait déjà un énorme bagage télé, puis un paquet d'outils à leur disposition, mais qui n'étaient pas construits, bâtis au départ pour faire de la télé sportive. Et ça, c'est vraiment particulier par rapport à produire des émissions, des téléromans ou des jeux quiz, par exemple. Donc, d'un point de vue technique, on a eu un paquet de défis au départ. Moi, je me souviens de matchs où, tu sais, déjà en partant, pour quelqu'un qui analyse ou qui décrit un match, mettre de l'émotion dans une rencontre puis te gager en fonction de ce qui se passe sur le terrain, c'est un défi. Tu sais, ça a l'air tout simple, mais des fois, tu vas trop vite, tu vas pas assez, puis t'es off en bon français par rapport aux produits sur le terrain. Mais il y a des matchs où on a fait que on avait même pas de son. Tu sais, tu fais un match de Ligue des Champions où t'as Paris qui joue contre Chelsea à Londres, mais t'as zéro ambiance. Tu fais comment? Tu sais pas ce qui se passe dans les estrades. Donc, déjà ça a été vraiment intéressant parce que ma seule référence à partir de là, c'était qui? Ben, c'était Frédéric, qui était le descripteur à côté de moi. Puis ça a été un exercice intéressant pour que les deux, on se pose la question à savoir, on a le goût de donner quoi comme show? Tu sais, ça va être quoi notre saveur à nous? Parce que quand tu peux pas te cacher ou avoir la bouée de l'ambiance qui vient avec le son, ben t'es face à toi-même en s'il vous plaît. Donc, il y a eu ça, il y a eu des matchs où on n'avait pas de son. Après ça, le lendemain, vu que le son fonctionnait toujours pas, ben on avait une mi-temps avec du son des Blue Jays de la veille. Donc là, t'es en train de décrire quelque chose, puis tout d'un coup, t'entends un gars frapper un coup de circuit. Tu dis, hey boy, là, ils nous ont pas avertis de ce qu'ils ont mis à la place comme son. Mais c'est un peu distrayant. Donc, en plus d'être un exercice intéressant pour savoir quelle couleur tu veux donner toi-même à la description. C'est un bon exercice de concentration parce que tu sais jamais si ce que tu as dans les oreilles, c'est exactement la même chose que ce que tu as devant les yeux et que tu es supposé de décrire.
Donc, en gros, ce que je comprends bien, c'est que toi, tes premiers balbutiements à la télé, là, c'était la même chose pour TVA Sport. Littéralement, à la vitesse que toi t'évoluais, c'était la vitesse également que TVA Sport allait chercher un petit peu du feedback sur comment ils étaient capables d'améliorer leur couverture sportive. Là. Ça, les deux se sont faits simultanément.
Ben, je sais pas si je peux l'équation, certainement par rapport à la technique, parce que comme je te disais tantôt, il y en avait tellement de moyens techniques à TVA, mais ils étaient pas toujours adaptés au sport. Donc, je pense que là, ça a été
pas bien coordonné encore.
Exactement. Et je pense que pour ça, ça a été, peut-être une courbe qui allait dans le même sens. Mais après, je te cacherai pas que j'ai fait un certain temps, peut-être une année et demie, deux ans. Puis là, j'ai senti que j'avais appris ce que j'étais capable d'apprendre par moi-même ou que j'étais capable d'apprendre par osmose avec mon partenaire Frédéric. Puis là, j'ai décidé d'aller chercher du coaching pour moi-même, du coaching que j'ai fait intensément pendant, il y a une des séances que j'ai prises, c'était 16 semaines avec des devoirs à faire à chaque semaine, des présentations à offrir à tous les vendredis avec un coach privé parce que là, je sentais que j'avais plafonné. Donc oui, au départ, c'est une courbe qui allait dans le même sens que TVA Sport, mais après, ben j'ai senti que j'avais besoin d'amener ça à un autre niveau pour moi. Là, c'est pas un jugement sur la station, mais moi, pour avancer, j'ai eu besoin de coaching personnel.
Fait que t'as pris le taureau par les cornes, puis parle-moi un peu de ça. Donc, toi, tu t'as pris la décision personnelle de vouloir t'améliorer là-dessus, d'aller encore plus vite. Puis, je suis curieux, si t'es à l'aise d'en discuter un peu aujourd'hui, c'est-tu également une des raisons qui a fait que t'as bougé un certain point de station? Parce que, à un certain point, je sais pas, comme tu disais, RDS était peut-être mieux rodé pour t'offrir un peu l'ambition que toi t'aspirais à un certain point en tant qu'analyste sportif.
Je te dirais que le travail que j'ai fait avec le coaching, c'est peut-être quelque chose qui a intéressé RDS davantage, mais il n'y a pas eu de lien entre TVA Sport où la station en était rendue puis ce que RDS avait à offrir. Ça a été beaucoup plus simple et très, très, très spécifique au domaine des droits télé dans le milieu du sport. On est arrivé, ça c'est une histoire intéressante d'ailleurs, puis ça a été un bon test de contrôle des émotions. C'est un vendredi matin. Moi, je suis au guichet en train de sortir une somme d'argent parce que le lendemain, je m'en allais en Irlande avec ma blonde à l'époque, qui l'est toujours, mais tu vas comprendre pourquoi je dis à l'époque dans deux secondes. Puis le lendemain, mon plan, j'avais la bague, j'étais prêt. On arrivait à Dublin parce que pour ceux qui le savent peut-être pas, mon père est irlandais, j'ai beaucoup de famille là-bas. Puis j'allais demander ma blonde en mariage le lendemain matin. Wow. Donc, gros voyage, je suis au guichet, puis là, j'ai un appel de quelqu'un qui me dit, bon, comme vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, la nouvelle est sortie. Ça fonctionne souvent comme ça dans le milieu de la télé ou des médias. Les nouvelles sortent, puis après, on est informé. On peut aimer ou pas, c'est la réalité de la tête. Exactement. Puis là, on me dit, ben, on a perdu les droits de la Ligue des champions. Puis moi, j'avais 2 gigs à ce moment-là à TVA Sport. J'avais les matchs de l'Impact, comme tu le disais tout à l'heure, puis la Ligue des champions qui représentait à ce moment-là peut-être 60-65% de mon année. Donc là, ça a été « Oh boy, OK, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? » Et ça, c'était au mois de décembre, c'était juste avant Noël. Fait qu'on est parti, on était dans la voiture avec ma blonde en route vers l'aéroport. J'ai dit « Regarde, laisse-nous faire notre check-in. » Puis quand on va s'asseoir, on va aller prendre une bière de l'autre côté. Je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. Il y a rien de hyper grave, mais c'est pas des bonnes nouvelles. Je vais t'en parler tout à l'heure. Là, j'ai juste besoin de décanter ça un peu. Puis la décision que j'ai prise quand on était à l'aéroport, c'est, tu sais quoi, on va attendre 2-3 semaines. Là. On va faire notre voyage. Puis à mon retour, là, je me déciderai sur c'est quoi mon intention. Est-ce que je veux rester à TVA Sport? Est-ce que je suis ouvert à faire autre chose? Qu'est-ce qui s'en vient? Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Quand je me suis dit, tu sais quoi, s'il y a quelque chose d'autre qui se pointe, je suis ouvert. Le lendemain, il y a quelqu'un de RDS qui a tendu une perche en me demandant « Serais-tu intéressé à discuter avec les patrons de RDS si jamais il y avait quelque chose à t'offrir? » J'ai dit oui. Je suis retourné voir TVA entre-temps. Ça s'est fait de manière super professionnelle, mais c'est comme ça que je suis passé du côté de RDS. Donc, encore là, la vie a assez bien fait les choses pour moi, je te dirais.
Oh my God, OK. Puis regarde, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Là. Ouais. Tu dis que t'es passé chez RDS à cause d'une histoire de droit sportif. qui fait énormément de sens. Là, à un certain point, si l'offre de RDS à ce moment-là au niveau soccer était plus intéressante, ben ça va attirer quelqu'un comme toi, un maniaque, un amateur de soccer qui veut faire sa job proprement, à vouloir peut-être aller davantage avec cette chaîne-là. Et quelques années plus tard, je sais pas exactement, on est en quelle année à peu près à ce moment-là, Ali?
Moi, j'ai fait le transfert en 2015, donc l'histoire dont je te parle, là, juste avant de partir en Irlande, quand j'apprends la nouvelle, c'est Noël 2014.
OK, fait que Noël 2014, bon, parfait. Là, il y a quoi? Peut-être à peu près 3 ans de ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu l'histoire inverse qui s'est passée. TVA Sport a été capable de reprendre là, maintenant, ils couvrent tous les matchs de l'Impact. Ils couvrent un paquet de matchs de soccer également. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as voulu te dire, est-ce que je refais le chemin inverse? Ou parce que là, c'est ça. À un certain point, l'offre de soccer est toujours bonne pour RDS, mais elle a quand même pris quand même cher à ce moment-là quand il y a autant de droits qui sont allés à TVA Sport.
Elle a pris très cher. Puis, je te dirais que le passage de tous les droits, puis là, je veux pas rentrer dans les détails, là, mais avant, un peu comme au hockey, tu avais les droits régionaux qui appartenaient à une équipe. D'habitude, l'organisation, l'Impact en l'occurrence, va les donner à une station, alors que les droits nationaux qui sont donnés par la Ligue, le reste des matchs, d'habitude les 2/3, mais ça, c'est donné à la station concurrente. Donc, ça crée cette concurrence-là dans le marché, puis c'est bénéfique pour tout le monde. La dernière négociation s'est faite à l'inverse. C'est tous les droits qui sont allés à TVA Sport. Mais en plus de ça, c'est que nous, à RDS, ça s'est passé à un moment où les choses commençaient à s'en aller sur le web. Donc là, nous, on couvrait la Ligue des champions. C'est parti sur DAZN 100% sur le web. Donc, tu peux pas voir ces matchs-là à la télé au Canada. C'est pas juste spécifique à la francophonie au Québec. Là. C'est vraiment pour le pays au complet. Et même chose pour la Premier League anglaise. Donc, oui, ça a eu un contre-coup de ce que j'avais vécu en 2015 en passant à RDS. Mais là où j'ai tellement, tellement de gratitude puis de reconnaissance pour la vision de RDS, c'est qu'il y a quelques années, quand ils ont vu que j'avais peut-être la capacité d'occuper un autre rôle, parce que moi, quand je suis rentré à la station, j'étais le 3e analyste, puis on m'avait fait comprendre que c'était absolument rien de personnel, mais j'étais le 3e analyste dans tous les sens du terme. C'était numéro 1, numéro 2, puis toi, ben quand on a besoin du numéro 3, tu rentres, tu fais la job, puis on est bien content de t'avoir, mais tu passeras pas numéro 1. Ceci dit, quand il y a eu une occasion de libérer une chaise d'animateur, ben là, on m'a demandé si ça m'intéressait. Puis après, quand il y a eu une autre occasion d'offrir une job de descripteur, qui est une autre job, complètement. Ça, je te confirme, je l'ai découvert lorsque j'ai commencé à décrire des matchs plutôt que les analyser. Ben là aussi, on a ouvert la porte. Donc, en ce moment, j'étais à un moment un peu bizarre de ma carrière parce que je trouve que je grandis tellement, mais c'est pas au volume. C'est en raison des jobs différentes que RDS m'a offert. Dernièrement, il y a une émission Faites vos jeux qui est généralement animée par François-Étienne Corbin où là, tu touches au baseball, tu touches aux arts martiaux mix, au hockey, bref, tu touches à tout. C'est pas spécifique au soccer. Et on m'a demandé d'animer cette émission-là quand François-Étienne était pas disponible. Donc, oui, c'est vrai que Love Soccer, là, il y a eu un effet boomerang de ce que j'avais vécu en 2015, mais en même temps, la boîte s'occupe tellement bien de moi à continuer de me faire grandir, même si j'ai peut-être pas le même genre de volume en onde que ça vaut encore vraiment la peine pour moi d'un point de vue professionnel. J'en retire encore énormément.
Intéressant. Donc, puis je suis curieux, question personnelle que je m'attendais pas à te poser aujourd'hui.
Vas-y.
Est-ce que c'est dans ta vision, dans ta réflexion présentement de dire qu'à un certain point, tu vas uniquement te concentrer soccer ou le volet animation, le volet télévision, le volet description, c'est quelque chose qui de plus en plus, peut-être davantage dans son format, t'intéresse, te dire peut-être que c'est davantage là-dessus que tu vois ta carrière sur le moyen long terme?
Tu m'aurais posé cette question-là il y a 2-3 ans, puis je t'aurais dit non, moi je veux rester dans le soccer avec les différents chapeaux que je peux porter, que ce soit celui de descripteur, analyste, ou animateur, parce que ça, c'est vraiment le chef d'orchestre. Pour les gens qui ont jamais vraiment baigné dans cet univers-là, c'est lui qui gère le temps, c'est lui qui est obligé d'accélérer les choses quand il faut, ou de ralentir, ou de carrément faire du temps quand des fois t'es un peu à court pis t'as un invité qui a été moins long dans ses réponses. Bref, c'est plus difficile que ça a l'air, pis ça, je l'ai appris à la dure à mes débuts. Mais maintenant, je suis plus ouvert à une condition. Moi, tu m'amènerais pour faire l'animation d'une émission de hockey. Il y a tellement de gens qui connaissent bien le hockey. Il y a tellement de gens qui sont capables de faire ça que je vois pas où j'aurais une plus-value qui me permettrait de sentir que je sers les gens. que je sers vraiment à quelque chose où quelqu'un d'autre à côté de moi pourrait pas faire la même chose. Ceci dit, il y a des concepts que j'ai en tête, il y a des entrevues que j'aimerais réaliser où là, oui, je sortirais du cadre du soccer, mais je pense que je serais vraiment pertinent. Le travail que je fais comme conférencier avec les parents d'athlètes, c'en est un bon exemple. C'est pas des parents d'athlètes exclusivement issus du soccer, ça peut être de tout sport. Donc, à ce niveau-là, oui, je suis très intéressé à sortir des limites du soccer, mais en même temps, je vais être certain d'avoir une plus-value. Sinon, ben c'est juste essayer de copier la job de quelqu'un d'autre, puis ça, je suis pas ben bon là-dedans, je te dirais.
Puis de te faire du fun aussi, là. Tu sais, il faut que tu aies du plaisir à faire ça à un certain point si tu t'en vas chapeauter des sports différents ou des loisirs différents, peu importe c'est quoi, là, faut que tu aies du plaisir. Puis de ce que je comprends, de plus en plus, t'apprends à avoir du plaisir là-dedans. C'est pas quelque chose que tu savais que tu ferais nécessairement il y a quelques années de ça, mais de plus en plus, tu y prends goût.
Non, t'as raison. Puis je parlais justement du travail que je fais avec les parents d'athlètes. Ça, c'est une question qui m'a été posée tellement souvent. Puis je crois énormément que les questions qu'on se pose à répétition forme notre identité, puis forme notre réalité éventuellement. Puis ma mère me demandait toujours, Olivier, es-tu, en fait, elle me demande encore, j'ai 36 ans aujourd'hui, puis elle me demande encore avec exactement la formulation suivante, Olivier, es-tu un petit garçon heureux? Bon, tu comprendras que c'est la mère qui parle encore à son fils, puis là, j'ai rien à voir là-dedans, mais ça a toujours été la question principale qui a dicté les choix que je faisais ou non. Puis, c'est pour ça que je te dis, je pense pas que je serais heureux, que je serais nourri à faire une job où j'ai l'impression que 50 ou 60 autres personnes sont aussi bien équipées que moi pour faire, puis qui ont des personnalités peut-être qui peuvent amener plus à la table. Alors que moi, je sais que ma personnalité peut apporter des choses très intéressantes, mais dans des domaines précis. Puis, c'est là-dessus que je veux me concentrer pour, comme tu le disais, ben m'assurer d'être heureux en le faisant.
Intéressant. Oli, je vais bifurquer un peu la conversation. Je voudrais ramener ça un petit peu plus au volet soccer, la croissance du soccer au Québec depuis plusieurs années maintenant. Donc là, je faisais mes recherches avant le début du podcast, puis je voyais que, le soccer en soi, là, si on regarde ça à partir des années 1980, bon, la Fédération de soccer au Québec disait qu'il y avait à peu près une trentaine de joueurs seulement dans sa fédération. Puis maintenant, là, en 2020, on est rendu à plus de 200 000 joueurs. Donc, au cours des 25-30 dernières années, c'est clairement un sport là, qui a accéléré puis qui a beaucoup, beaucoup plus de joueurs, surtout au Québec, qui vont y jouer. C'est quoi les facteurs, selon toi, qui ont influencé cette croissance rapide-là? Est-ce que c'est l'arrivée d'un club de soccer ici? Est-ce qu'il y a eu des facteurs différents? Selon toi, qu'est-ce qui a fait que le soccer a pris autant de croissance dans les dernières années?
Ah, il y a tellement de raisons. D'abord, il y a des infrastructures. Tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand j'étais à la fin de mon secondaire, début cégep, je partais en Irlande à chaque année du mois de décembre au mois de mai pour m'entraîner, pour être certain de pouvoir m'entraîner sur un terrain à 11 à l'année. Parce que des centres intérieurs, moi, j'ai grandi à Québec comme toi, il y en avait pas. Donc, ça montre à quel point la réalité a changé. Toi, quand je t'ai coaché au sport-études, c'était dans un gymnase où on s'entraînait. Ouais. On a été capable de travailler, mais c'était avec des outils qui sont bien différents de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que les infrastructures qui permettent de jouer à l'année longue, c'est un facteur. Après, il y a aucun doute que la Coupe du Monde, qui est arrivée aux États-Unis au début des années 90, en 94, ça a été un autre énorme facteur parce que là, c'est comme si c'était plus le sport des autres. Et surtout pour les Américains, parce qu'on se cachera pas que ça se passe par osmose pour nous au Canada. Souvent, si les Américains foncent à plein dans quelque chose, ben ça a des répercussions sur nous. Il y a ça. Il y a le fait que maintenant, ben tu as des générations qui ont joué, qui ont des enfants, puis c'est comme pas révolutionnaire que d'inscrire ton enfant au soccer. Ça va de soi parce que ça a été ta réalité aussi comme parent. Donc, je pense que tous ces facteurs-là, combinés, je suis bien placé pour le constater, combiné à l'offre qui est tellement plus importante à la télé. Là, c'est intéressant, par contre, de voir ce que ça va donner avec toutes les compétitions qui se ramassent sur le web. Mais depuis 15 ans, l'offre que tu as à la télé, ben, tu as un accès que tu n'avais pas il y a 20 ou 30 ans. Puis je pense que ça fait en sorte que, ben oui, tu as beaucoup, beaucoup plus de jeunes qui jouent dans le temps.
Puis je veux faire du pouce un peu à ce que tu viens de dire là avec la couverture à la télé, tout ça. Je lisais également que, bon, Michel Dugas, que je sais plus s'il est encore chargé des communications chez Soccer Québec,
oui, il est toujours,
bon, ben c'est merveilleux. Je pense qu'il disait il y a en 2015 qu'il y a à peu près le double d'inscriptions de jeunes qui vont jouer au soccer au Québec comparativement à ce qu'il va avoir au hockey. Okay, donc, c'est quand même une proportion importante. Mais maintenant, la popularité du sport est clairement en hausse. L'équipe de l'Impact, là, donc, littéralement ce qu'on parlait un petit peu de l'offre à la télé, l'équipe de l'Impact est de plus en plus compétitive. Il y a des vedettes qui vont venir dans cette équipe-là année après année. Moi, je me pose la question, puis je voudrais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui manque pour que l'Impact de Montréal, à un certain point, soit capable d'avoir des matchs à guichet fermé, semaine après semaine, parce que c'est pas le cas. Moi-même, je vais au stade pas mal assez souvent pendant l'été. Je sais pas si je vais pouvoir y aller cet été, là, pour différentes raisons. Mais qu'est-ce qui manque à l'Impact pour être capable de faire guichet fermé, selon toi?
C'est vraiment intéressant que tu me poses cette question-là en ce moment, parce que j'ai eu la réflexion. Ça va exactement dans le même sens que le feeling que j'ai développé pour certaines entreprises dans mon quartier que j'ai envie d'aider pendant la période du confinement, alors que pour d'autres, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais peut-être une certaine indifférence. L'Impact, à mon sens, tout doit passer par leur communication, leur marketing pour créer des racines avec leur public où les gens se sentent attachés, se sentent investis d'un lien émotif. L'exemple que je donne toujours, puis l'Impact est sur la bonne voie. Il y a deux ans, moi, j'ai été très critique dans un paquet de papiers que j'ai écrit à la radio aussi. J'anime le FC 919 sur les ondes du 91.9 Sport à Montréal. J'ai été très critique là aussi parce que je trouvais que le marketing était, en fait, c'était jamais du marketing, c'était de la vente. On était toujours en train de dire, voici c'est combien, déplace-toi au stade. OK, mais pourquoi je me déplace au stade? Explique-moi, tu sais, en quoi ça me représente? En quoi je devrais m'identifier à ce que vous êtes en train de faire? Et on parle encore des expos comme une équipe qui s'appelle Nos Amours. Le Canadien, c'est la sainte flanelle. Puis je le sais, je veux pas rentrer là dans le spécifique des dernières années parce que le Canadien, on s'entend là pour bien des raisons, c'est tout croche. Mais dans la tête des gens, on les appelle encore les glorieux, la sainte flanelle. Les expos, c'est nos amours. Tu sais, à la limite, les alouettes, c'est nos moineaux. Tu sais, puis il y a comme un attachement qui est là, qui remonte à il y a longtemps, qui est ancré dans des choses hyper positives, alors que l'Impact, ça a souvent été le club des Saputos qu'on avait comme le droit d'emprunter. J'ai déjà donné l'exemple de la piscine du voisin. C'était comme, c'est pas la piscine communautaire, là. C'est le voisin qui nous donne accès à sa piscine parce que lui, il a eu la vision d'en faire creuser une chez eux, mais on allait comme l'emprunter. Tranquillement, l'Impact est en train d'essayer de reconnecter avec ces gens, puis c'est comme ça, je suis convaincu qu'on va réussir à remplir le stade Saputo, mais c'est aussi pour ça, j'ai l'impression qu'on l'a pas toujours rempli dans le passé.
Intéressant. Fait que toi, selon toi, ça passe pas plus par, encore une fois, des superstars à la Didier Drogba qui viennent dans l'équipe. Tu penses que c'est vraiment une question de temps, communication, s'attacher à l'équipe, puis à un certain point, superstar.
Ces superstars-là, pour moi, encore, je vais donner un autre exemple de coronavirus. La pandémie en ce moment, les superstars pour une équipe sportive, l'argent pour une entreprise ou pour une personne, moi, je pense que ça fait juste une chose, ça amplifie ce que t'es déjà. Quand Didier Drogba s'est pointé à Montréal, là, tout le monde a été surpris. Il y avait des centaines de personnes à l'aéroport qui l'attendaient, mais les gens étaient pas prêts au club. Et d'ailleurs, Kevin Gilmour, qui a pris la présidence de l'Impact depuis ce temps-là, a été très candide et je partage à 100% son point de vue. Il a dit, on n'était pas prêts à capitaliser là-dessus. Donc, pour moi, ta superstar que tu vas chercher, oui, c'est clair qu'elle va t'aider, mais ça va être ton tipping point. Parce que si t'as pas des racines fortes, quand cette personne-là va partir, et c'est arrivé avec Didier Drogba, tu te retrouves au point zéro. Bref, tu reviens à la case zéro et c'est ce que tu veux éviter. Tu vas être capable de créer du momentum plutôt qu'être obligé de recommencer à zéro en payant le gros prix pour des superstars à chaque fois.
Puis tu as dit qu'ils se sont, selon toi, qu'ils sont repartis à zéro. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a quand même un après Didier Drogba qui a été capable de se faire sentir chez l'Impact? OK.
Non, puis je suis très, très tranché là-dessus parce que j'ai passé tellement de temps à réfléchir à ça. Quand il était là, j'ai passé tellement de temps à poser la question, il va rester quoi? Puis là, quand je dis poser la question, c'est en tant que journaliste, c'est en tant que fan, c'est à des gens dans les bureaux, c'est à des joueurs qui l'ont côtoyé, à des entraîneurs qui l'ont côtoyé. Tout le monde n'avait que des bonnes choses à dire sur lui, mais il y a eu quelque chose dans sa présence parce que c'est un personnage plus grand que nature. Là. Je te dis,
bien sûr,
quand tu passais et tu lui serrais la main, il était imposant, il y a vraiment une aura extraordinaire, Didier Drogba. Mais non, moi, je suis pas capable de dire qu'à part individuellement des souvenirs que les gens qui l'ont côtoyé ont, puis c'est des choses qui sont tout à fait légitime, c'est des beaux souvenirs, mais en tant qu'organisation, non, que ce soit positivement ou négativement, je pense pas qu'on a utilisé ça pour mettre une pierre supplémentaire à l'édifice, puis c'est un grand malheur d'ailleurs de son passage à Drogba à Montréal.
Puis qu'est-ce qui aurait pu être fait? Selon toi, là, vite comme ça, il y a peut-être rien qui te vient à l'esprit, mais qu'est-ce que tu penses qui aurait pu être fait différent si, disons, demain matin, regarde, je dis n'importe quoi, mais après le confinement, il y a une superstar en Europe qui vient.
Ouais.
Quel est le modus operandi que l'Impact devrait faire d'une manière différente, selon toi, pour arriver puis être capable de donner une legacy à son club, à ses fans, quand ce départ-là va être fait? Parce qu'il faut le mentionner, les superstars qui viennent en MLS, ils arrivent à 36, 37, 38 ans, ils arrivent pas au top de leur forme à 24, 25 ans.
Ben, t'en as qui arrivent à beaucoup plus jeunes, sauf que oui, un cas Drogba, non, il serait pas venu à 27, 28 ans. Moi, je pense que il faut avoir un mix quand même assez étrange de prétention dans nos ambitions et d'humilité pour y arriver. Parce qu'un gars comme ça, là, il arrive avec tout son bagage. C'est pas vrai que tu vas y dire, ouais. Hey, fais ça, prends ton trou. C'est le même que ça marche ici. En même temps, il faut que tu aies la main assez ferme pour qu'il te respecte aussi. Et c'est là où je pense qu'on était trop... D'ailleurs, quand Thierry Henry est arrivé à Montréal comme entraîneur l'année passée, moi, il y a une chose qui m'a irrité un peu, c'est quand on nous a dit, ben, sur les médias sociaux, l'Impact a écrit « on se pince encore ». Et ça, c'est le club lui-même qui mettait ça comme message. Ben moi, dans ma tête, je me dis « vous avez pas compris ». À mon sens, que lui a besoin de vous à ce stade-ci de sa carrière autant que le club a besoin de lui. Et c'est comme cette dynamique-là qui a pas fonctionné avec Drogba. Et je pense que ça a surtout montré que d'un point de vue communication, puis là, je parle pas nécessairement du département de communication, mais de la capacité au club à communiquer, ça a été un grand problème parce que ce gars-là est arrivé, Drogba, il a été tout feu, tout flamme, il marque 11 buts en 11 matchs à son arrivée en 2015, mais après, coup de théâtre, on le voit débarquer dans les estrades de son ancien club à Chelsea, puis là, on apprend que Chelsea est en train d'essayer de le rapatrier pour être entraîneur adjoint. Et là, il y avait encore une année de contrat, puis pendant des semaines, l'Impact n'a pas communiqué, et à son retour, on nous dit, on lui a parlé, tout est correct, inquiétez-vous pas, tout est beau. Ben voyons, c'est, pour moi, c'était prendre les gens pour des valises, et c'est là où il y a la déconnexion dont je te parlais tout à l'heure. Ça fait mal, ça, à l'enracinement que tu as dans ton marché, parce que les gens disent, c'est pas vrai, là, vous nous bourrez en ce moment, et ça, c'est le genre de choses que, à mon sens, l'Impact est en train de commencer à beaucoup mieux gérer maintenant.
Bon, c'est une bonne nouvelle parce que comme tu le dis, on n'a pas le Thierry Henry joueur présentement, mais on l'a comme coach. Puis ouais. Juste en termes de figure, on pourrait faire une comparaison un petit peu avec Drogba. Mais là, comme je l'ai dit, par contre, il vient comme coach, mais c'est quelqu'un qui a eu un. C'est un champion du monde, là, lui, là. Fait que c'est pas n'importe qui s'en vient à Montréal. Il faut être prêt, j'imagine, également en tant que club pour être capable de bien le supporter dans son développement, comme tu l'as dit, là.
Bien le supporter, puis de lui donner une mission qui est claire aussi, parce que à l'arrivée, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, je te parlais de capacité du club à communiquer tout à l'heure, quand tu as une entreprise ou un club, c'est encore plus important pour une organisation sportive parce que tu as les émotions des fans qui embarquent là-dedans, en plus des émotions qui sont générées par les résultats. Donc, quand tu entends des messages qui sont différents en fonction d'un département, si tu écoutes les gens de la business du club qui disent X, puis là, après ça, t'écoutes les coachs ou les joueurs, puis ils disent Y, tu dis « Hey boy, moi, il faut que je fasse confiance à qui? » Et là, ce qui a été vraiment intéressant avec l'Impact au cours de la dernière année, c'est que le message est aligné par tous les départements. T'as Kevin Gilmore qui est arrivé l'année passée, qui dit « On veut une équipe qui se met de l'avant davantage, pas juste sur le terrain, mais dans les médias aussi. Faut qu'on en donne plus, faut qu'on soit plus accessible. » T'as Olivier Renard qui est arrivé comme directeur sportif par la suite à la fin de l'année passée qui a dit exactement la même chose. Et là, quand Thierry Henry débarque, tu sens qu'il a été briefé, qu'il a exactement la même mission que les deux autres parce que son discours va dans le même sens. Quand t'entends ça, à mon sens, que ce soit comme analyste ou comme supporter, ben ça, c'est rassurant parce que tu sens que oui, l'équipe est allée chercher un coach qui a beaucoup d'expérience, mais on lui a aussi donné une ligne directrice. Puis ça, peu importe ton bagage, je pense que dans une entreprise, c'est toujours super important, même si c'est ton plus gros vendeur, parce qu'en ce moment, pour prendre des termes de vente, Thierry Henry, c'est pas mal ça. C'est le plus gros vendeur de l'Impact de Montréal.
Ouais. C'est le coach, mais c'est lui qui va amener...
Exact.
Moi, on le souhaite là, qu'il y ait une saison, mais c'est lui qui va sûrement amener du monde dans le stade. Je te pose des petites questions, Ali, OK?
Ouais.
Je regardais un petit peu le volet plus... économique, le volet business de l'Impact. Puis je regardais, là, puis c'est selon le magazine Forbes qui disait que l'Impact aurait perdu environ 15 millions de dollars pendant la saison 2018. C'est pas les seuls. Il y a également énormément d'équipes en MLS là, qui présentement perdent de l'argent chaque année, qui n'ont pas une profitabilité. La question que je te pose maintenant, est-ce que avoir une équipe de soccer à Montréal, ça peut être viable sur le long terme ou à un certain point, les Saputo, les propriétaires du club, risquent de stanner puis peut-être de vendre l'équipe au vu de la non-profitabilité ou peut-être même de la déménager? Est-ce que c'est une peur que toi, tu penses qui pourrait arriver ou... D'un autre côté, tu as peut-être un avis différent là-dessus.
Non, moi, avant l'arrivée de Kevin Gilmour à la présidence, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était une préoccupation réelle pour moi. Okay. D'ailleurs, on avait eu une table ronde avec les médias en compagnie de Joey Saputo, puis je lui avais posé exactement cette question-là. À l'époque, Joey avait répondu que c'était pas son intention. Après, je lui avais demandé, est-ce que tu serais ouvert à vendre à quelqu'un ici à Montréal ou à un Québécois? La réponse avait été sèche, ça avait été non. Donc, les choses peuvent...
Mais c'est son bébé un peu, là.
Oui, mais c'est là où je pense que ça a été une excellente décision, puis une décision empreinte d'humilité de laisser aller à quelque part son bébé à quelqu'un d'autre qui a pris la présidence, Kevin Gilmour en l'occurrence. Est-ce que c'est viable une équipe à Montréal? Oui, à 100%. Mais est-ce que tu as beaucoup de job à faire pour vendre quelque chose qu'on pensait au départ se vendre tout seul? Parce qu'il faut pas oublier qu'en 2012, quand l'Impact est arrivé, on avait 13 000 détenteurs de billets de saison comme objectif. On n'a toujours pas passé le cap des 10 000, puis on est rendu en 2020. Donc, à quelque part, il y a eu un décalage entre les attentes puis les résultats et ce qui a été fait entre-temps pour pallier à cet écart-là. Donc, oui, je suis convaincu que c'est viable, mais est-ce que il y a cette idée-là que ça pourrait être déménagé, sachant que la MLS est en phase d'expansion? C'est pas là que tu t'attends à avoir des déménagements, mais une fois que la vague d'expansion va être faite, c'est sûr qu'on va regarder les divers marchés puis se demander est-ce qu'il y en a qui valent la peine d'être évalués pour savoir est-ce qu'on devrait les déménager. Oui, mais encore là, j'ai l'espoir qu'avec les bonnes décisions qui ont été prises, puis la direction beaucoup plus stimulante puis enthousiasmante qu'on a vue depuis un an et demi, ben je pense que quand on va se poser ces questions-là, le Montréal va être pas mal plus en santé qu'elle l'a été pendant quelques années.
C'est intéressant ce que tu as dit. Ils ont pas encore franchi le 10 000 billets de billets annuels, là, littéralement de billets de saison que tu vas prendre. Puis il y avait 13 000. OK, donc c'est un peu le fou la poule en ce moment, là, parce que s'ils veulent franchir ce 13 000-là, peut-être même ce 14 000, ce 15 000-là, à un certain point, faut que le club soit plus compétitif. Faut peut-être que tu aies des meilleurs joueurs que tu vas payer plus cher, donc tu vas perdre de l'argent pendant encore une couple d'années avant d'atteindre ça. Donc, ils risquent d'avoir encore certaines années compliquées au niveau peut-être économique pour l'Impact avant d'atteindre d'avoir des matchs à guichet fermé, d'avoir une meilleure rentabilité avec le club, là.
Non, mais les matchs à guichet fermé, moi, je pense que ça peut arriver plus rapidement. Maintenant, la rentabilité avec le club, ça, c'est un autre dossier, parce que c'est pas parce que ton stade est plein que tous tes forfaits VIP, que tous tes partenariats sont vendus et que tu fais tout l'argent que tu serais capable de faire avec, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Après, est-ce que, tu sais, un des gros ajustements qui a été fait au cours des dernières années, puis c'est un ajustement qui a fait beaucoup de bruit auprès des détenteurs de billets de saison qui étaient déjà abonnés, c'est que on a augmenté les prix, on va dire restructurer l'offre des billets, pour prendre le vocabulaire des vendeurs à l'Impact de Montréal, pour se remettre à niveau par rapport au reste de la MLS. Ça veut dire que si tu remplis ton stade, puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Drogba, quand Drogba était là, puis tu vendais ton stade, tu étais à guichet fermé, tu faisais même pas proche de l'argent que tu vas faire cette année ou l'année prochaine si ton stade est plein, parce que la façon de distribuer les places dans le stade et les prix de ces places-là, ça a été modulé pour qu'on fasse plus d'argent, bref, qu'on en laisse moins sur la table. Mais est-ce que ça peut prendre quelques années? Oui. La chose qu'il faut jamais oublier, par contre, c'est qu'il y a tellement une envolée en flèche du prix des franchises que, comme en immobilier, ben, tu te dis, il y a peut-être de l'équité à quelque part pendant que, oui, je perds quelques millions par année. Je dis quelques millions, là. Même si c'est une dizaine de millions, c'est quand même important, même si tu t'appelles Saputo. Mais il faut pas perdre de vue que la franchise, là, sur papier, elle vaut 100 millions 100%. Plus qu'elle valait en 2010 quand l'Impact en a fait l'acquisition.
Clairement, ça, c'est un bon point que tu mentionnes, parce que au-delà des, parce que là, je voyais ça, là, c'est 16 des 24 clubs en MLS présentement qui sont non profitables, qui perdent de l'argent chaque année.
Exact.
Mais d'un autre côté, paradoxalement, les clubs prennent de la valeur année après année. Puis ça m'amène à mon point de dire, tu sais, ça fait plusieurs années maintenant là, qu'on les voit les stars mondiales venir s'implanter un petit peu dans la ligue. Il y a eu Zlatan Ibrahimovic qui est venu, David Beckham, c'était le premier, je pense, qui est arrivé en 2007. Didier Drogba, on l'a mentionné. Donc, tu sais, tranquillement, pas vite, la ligue, la MLS prend plus de cachet. Il y a une meilleure notoriété. Beaucoup plus de gens vont en parler. Moi, je te pose la question, est-ce que tu crois fondamentalement que sur un échéancier de 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, le niveau de soccer qu'on voit en MLS pourrait tranquillement pas vite ressembler à ce qu'on voit en Europe? Puis là, quand je dis en Europe, si je parle des clubs de division 1, ou c'est une vision purement utopique?
C'est pas une vision utopique. Maintenant, t'as apporté une partie de précision importante en parlant des clubs de division 1. Maintenant, faut pas oublier que la Lituanie puis la Bulgarie a sa division 1 aussi. Et ça, je pense c'est un des combats de la MLS, c'est qu'on est toujours en train de comparer à l'Europe ou à l'Amérique du Sud.
Premier League,
Mais tu sais, c'est pas vrai que le championnat en Bolivie, au Venezuela, est le même que au Brésil ou en Argentine, et comme le championnat en Écosse est pas le même que celui juste au bord de la frontière en Angleterre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui fait mal, cette idée-là de l'Europe avec un grand E où on a l'impression que tout est au top. Ceci dit, oui, la MLS, moi je le vois là, depuis 2012 que je couvre
actuellement,
ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et oui, il y a encore certains joueurs qui arrivent plus tard dans leur carrière, mais tu vois des gars comme Boyan qui arrive, Victor Wanyama qui vient de signer avec l'Impact, qui a une carrière extraordinaire en Angleterre, il y a 28 ans seulement. Oui, il y a eu des petits pépins de santé, c'est vrai, et des clubs en MLS doivent capitaliser sur des gars comme ça qui ont peut-être un peu moins la cote qu'ils avaient dans le passé en Europe. Puis là, ils se demandent, ben, y a-tu un coup à jouer peut-être en s'en venant en Amérique du Nord? Ben, t'en profites. Mais justement, je parlais de la Bulgarie puis des autres pays, l'Autriche, la Suisse. Eux, ils sont dans le même bateau. Tu peux pas te battre à armes égales avec l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou la France, par exemple. Donc, je pense que oui, il y a une envolée, une avancée plutôt extraordinaire du sport. Ça se rapproche de l'Europe, mais encore là, faut faire bien attention à comment on définit cette Europe-là, parce que c'est assez inégal, merci, sur le vieux continent.
Of course. Puis le prochain gap, ça serait quoi? C'est quoi le prochain step, selon toi, que la MLS, parce que là, on l'a vu, il y a eu des joueurs emblématiques qui sont venus, il y a des coachs, tranquillement pas vite, quand même assez importants qui sont venus. Je me trompe pas, il y a pas Gerard Tatino, ou du moins l'ancien coach de l'Argentine.
Exactement, puis du FC Barcelone qui a coaché à Atlanta, il a gagné un championnat d'ailleurs.
Exactement. Fait que tu sais, tranquillement pas vite, sont capables d'amener joueurs, coachs, dirigeants également. C'est quoi la prochaine étape selon toi que la MLS doit faire pour se rapprocher encore plus des clubs là d'Europe, mais on va dire peut-être un petit peu plus au sens large.
Ben en fait c'est pour attirer du talent et là ben c'est comme dans n'importe quelle entreprise, à quelque part c'est quoi ta plus-value et rapidement dans le monde du sport tu vas parler de salaire. Puis, je pense que c'est un des gros défis que la MLS a et ils veulent s'assurer de pas faire la même erreur que la NASL avait fait dans les années 70 quand Pelé, quand Beckenbauer, George Best, tous ces gars-là sont venus jouer en Amérique du Nord, mais ça a duré quelques années parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur les dépenses. Puis finalement, les équipes se sont ramassées dans un mur puis on a été obligé d'arrêter ce championnat-là. Donc, la croissance est beaucoup plus contrôlée maintenant. Ça, je pense que c'est une bonne chose, mais à quelque part, faut délier les choses un peu si on veut continuer d'avancer. Délier les choses, ça va passer par les salaires, comme je te le disais. C'est particulier, là. En MLS, deux fois par année, tu as les salaires qui sortent. Imagine-toi dans un bureau où tu as des gens qui font sensiblement le même travail. Bon, pas avec la même expérience ou la même feuille de route, mais tu en as un qui gagne 87 000, puis le cubicule d'à côté fait 4,2 millions. Imagine être obligé de dealer, de manager ce vestiaire-là ou ce bureau-là, parce que c'est la réalité des coachs puis des dirigeants en MLS. Donc, d'avoir des salaires un peu plus importants pour les plus jeunes ou les joueurs qui sont en marge du groupe, je pense que ça va être énorme pour augmenter le niveau moyen des équipes. Et après, quand on parle des joueurs qui sont top, les Drogba, les Thierry Henry quand il était joueur, Wayne Rooney, Beckham et compagnie, la chose qui revient sans cesse, c'est les déplacements sur la route. Parce que en Europe ou ailleurs, c'est des déplacements qui sont, des vols qui sont nullisés. Alors que pour garder une certaine parité à travers l'Amérique du Nord, à travers la MLS, ce que la Ligue avait décidé de faire, c'est de donner un certain nombre de déplacements analysés seulement par année. Et c'était un faible nombre. Sachant que tu joues 17 fois sur la route, je pense qu'à un moment donné, c'était 4 déplacements qui pouvaient être analysés. Le reste, tu pouvais pas. Parce qu'on voulait s'assurer que les clubs qui ont plus d'argent aient pas un avantage déloyal avec leur jet privé sur les autres clubs qui ont des plus petits moyens. Mais à chaque fois que tu as une nouvelle star qui arrive, c'est toujours la chose qui revient. Quand tu t'en vas jouer à Los Angeles ou quand tu t'en vas jouer à Columbus, puis il faut que tu voyages avec le public, il faut que tu voyages économie et que tu passes par Chicago pour après ça t'en aller à Montréal, puis tes vols, ils se font pas tout de suite, faut que tu attendes au lendemain. Ça a tellement une grosse incidence sur la récupération des joueurs. Ça, c'est un irritant majeur. On a fait des avancées là dans la dernière convention collective, mais à terme, ça, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup améliorer les conditions ou la façon de voir les conditions en MLS des plus grands joueurs qui pourraient peut-être venir jouer ici.
Intéressant. Puis je te pose une question, puis on va en venir un petit peu plus au niveau local là par la suite du soccer au Canada spécifiquement. Mais t'as dit que tranquillement, pas vite, t'as vu la Ligue évoluer. Tu vois que le niveau devient de plus en plus élevé. Est-ce que tu penses que ce niveau-là peut également grandir à travers le temps avec la croissance du potentiel local? Est-ce que tu penses que ça va uniquement venir des superstars en Europe qui vont venir ici puis qui vont être capables, entre parenthèses, de doper le niveau de la Ligue, ou à un certain point, cette Ligue-là va pouvoir voler de ses propres ailes avec du talent local, aux Canadiens, Américains? Est-ce que cet impact-là, est-ce que la MLS a une incidence également sur les niveaux un petit peu plus amateurs, plus jeunes?
Je pense que tu peux doper avec l'importation de joueurs de très haut niveau pendant un certain temps ou jusqu'à un certain point, mais après ça fonctionne pas parce que ces gars-là, il faut qu'ils soient servis par quelqu'un. Puis on l'a déjà vécu à Montréal, tu avais un Marco Di Vaio qui est arrivé au début de l'aventure MLS, puis tu le voyais frustré avec ses partenaires parce que les passes arrivaient pas à temps. Quand lui, il faisait des courses ou des appels, puis il était frustré, il se tournait vers son coach puis il demandait des changements. Ça crée des dynamiques qui sont pas acceptables et qui sont pas bonnes non plus aux yeux du public. Donc, je reviens à mon idée. C'est un tipping point. Ces gars-là, quand tu as une base solide, et cette base-là vient de ce que tu as dit tout à l'heure, les académies. Moi, j'ai participé à l'élaboration de l'académie à l'Impact. J'étais là, écoute, on faisait l'arborescence du site web là, pour avant de partir le sport-études. C'était vraiment, là, on partait, c'était bric-à-brac un peu, mais on voyait où ça devait s'en aller, où on voulait du moins que ça s'en aille. Puis depuis ce temps-là, ça fait des bons extraordinaires. L'académie, le travail qu'ils font pour produire ce qu'on espère être les futurs pros à l'Impact, c'est extraordinaire. Et oui, ça passe par eux pour deux raisons. Parce que ces gars-là, tu les connais. Donc, d'un point de vue main-d'œuvre, tu sais exactement à quoi t'attendre. Au départ, parce qu'éventuellement, tu veux les payer à leur juste valeur, mais au départ, ils vont te coûter moins cher parce que c'est des gens de la place que tu n'as pas besoin d'attirer dans ton organisation. Et après...
Ils veulent jouer ici.
Exactement. Et après, ben tu as l'enracinement avec la communauté dont je te parlais tout à l'heure. Samuel Piette, c'est pas le meilleur joueur de l'Impact de Montréal, mais c'est lui le lien affectif avec le Québec.
100%.
C'est lui le lien affectif avec Montréal. Donc, quand tu as ça et que tu vas chercher les Drogba, les Thierry Henry, les Boyan et compagnie, ben c'est là que tu as un mélange pour avoir une belle réussite, mais surtout un stade rempli à chaque match.
Intéressant. On vient de parler là du Canada. Je voudrais faire un peu du pouce là-dessus. Il y a, bon, je sais pas si ça fait peut-être à peu près un an maintenant que ça a été sorti. La Coupe du monde de soccer va être au Canada.
Ouais.
Même à Montréal, je crois bien. Je sais pas si c'est officiel, mais j'ai cru voir qu'elle est peut-être à la...
On souhaite toujours
officiel encore. OK, on va se croiser les doigts. Mais ça arrive en 2026.
Ouais.
En termes de notoriété, puis également en termes économiques, moi, je voudrais savoir, Oli, quels avantages, voire inconvénients, puis je vais t'expliquer après pourquoi, la tenue d'un événement comme la Coupe du Monde pourrait avoir sur le Canada, peut avoir sur Montréal. Puis, petite parenthèse, pourquoi je dis inconvénient? Mais regarde, je fais surtout référence à l'énorme dette supportée que Montréal, que le Québec a eu suite à la construction du stade olympique pour les Jeux olympiques de 1976. Donc, moi, je veux t'entendre un petit peu là-dessus. Ça va être quoi l'avantage, peut-être même les inconvénients de cette Coupe du Monde-là?
Ben, d'un point de vue politique, moi, je pense que le spin va se faire dans l'autre sens. On va dire, écoutez, on a ça, on a déjà dépensé, puis c'est un éléphant blanc qui sert à peu près à rien en ce moment. Donc, pourquoi pas utiliser des fonds qui seraient disponibles ou le momentum d'une Coupe du Monde qui s'en vient pour investir des fonds et que au moins le Stade olympique nous serve à attirer l'attention du monde au grand complet sur une ville qui a encore quoi? 6 ans pour se faire belle, réparer les routes, puis agrandir les métros. Je sais pas à quelle vitesse tout ça peut se faire en même temps, mais je pense que c'est de cette manière-là qu'on va le présenter. Après la Coupe du Monde, tu sais, je pense que c'est vraiment, on a souvent parlé des Olympiques ici, mais la Coupe du Monde, c'est une autre bête. Tu sais, c'est tellement gros.
Plus gros que peut-être.
C'est vraiment différent parce que t'as un attachement. Je pense que ça ratisse plus large déjà parce que c'est comme si t'avais les Olympiques d'été et d'hiver en un parce que c'est la planète au grand complet. Les Olympiques d'hiver, exactement. Au Brésil, c'est plus tranquille, merci. T'as toujours une partie de la planète qui est un peu laissée pour contre quand t'as une partie, ben les Olympiques, en fonction du fait que ce soit l'hiver ou l'été. Donc, je pense que de passer à côté de ça, d'un point de vue image, que Montréal, ayant justement ce stade-là qui a tous ses défauts, j'en conviens, mais qui pourrait peut-être être amélioré, de passer à côté d'une présence de match, d'une présentation de match à Montréal, que d'autres villes en aient, puis qu'on se ramasse de toute façon avec ce stade-là qui s'en va nulle part, pour moi, ce serait un échec monumental.
Fait que tu penses qu'il utiliserait le stade ou qu'il retraite? Parce que en ce moment, je pense pas qu'on ait les capacités et on a l'infrastructure pour accueillir un match de Coupe du Monde là, à Montréal. Je pense pas que le stade Saputo pourrait accueillir un match de la Coupe du Monde. Non. Il faut que je crois que tu aies beaucoup plus de place dans le stade, si je me trompe.
Il faudrait augmenter de manière importante. C'est le stade olympique en ce moment là qui serait l'endroit pour accueillir un match. Exact. Ouais.
OK, parfait. Fait. Puis donc, on s'entend, là, il va avoir un impact sûrement économique, mais est-ce qu'il pourrait avoir également un impact sur le Canada au niveau du soccer après la Coupe du Monde? Est-ce que tu penses qu'à un certain point, le club canadien et s'en va dans la bonne direction? Est-ce que tu penses que par la suite, ça pourrait aider peut-être d'autres personnes à, je sais pas exactement comment que ça pourrait améliorer le soccer canadien, mais as-tu une opinion par rapport à ça, sur ce que la Coupe du Monde pourrait faire par rapport au soccer ici?
Ben oui, tout à fait. Je te parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde en 1994. C'est pas compliqué. En Amérique du Nord, il y a un avant puis il y a un après la Coupe du Monde 94. Okay. Et t'es jamais revenu au avant depuis ce temps-là parce que tout le monde a pris conscience de l'ampleur du sport. Là, je pense qu'on est à une autre étape parce que tout le monde est conscient de l'importance du soccer sur la planète, chose qu'au début des années 90, on découvrait. Maintenant, moi, ma grosse interrogation, parce que je te parlais du fait que j'ai été très critique envers l'impact au fil des ans sur son marketing, sur son positionnement, puis dans le fond, son identité, c'était quoi être l'impact de Montréal? Et c'est ça que, quand t'attirais un Didier Drogba, t'amplifiais. T'amplifiais quoi? Ben, un certain flou. Pis ça, c'est jamais bon. Du côté du Canada, je me pose la même question en ce moment parce que le marketing est pas extraordinaire. On connaît pas très bien les joueurs. Je pense que il y a la communication juste là, au sens large de savoir que l'équipe joue. Là, hey, c'est le B.A.B.A., on est en 2020. Là. Yeah. Tous les moyens qu'on a, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être largement amélioré. Donc, mon inquiétude en ce moment, sachant que tu as 6 ans pour y arriver, c'est du temps en masse.
Ça vient vite.
Ah, oui, ça vient vite, mais en même temps, tu vas chercher des bonnes personnes, t'investis un petit peu d'argent dans des bonnes têtes qui sont capables d'utiliser les moyens qu'on a en 2020. C'est vraiment pas long que tu es capable d'améliorer de manière drastique la communication, ton marketing puis le branding des gars et des filles. Et déjà, il y a une partie de ça qui a été faite en passant de Umbro à Nike. Tu sais, quand tu t'en vas avec Nike, juste dans la perception des gens, tu te dis, oh, OK, notre équipe, c'est une équipe des vraies ligues. Et je comprends là, que c'est une équipe nationale, ça va de soi, mais vraiment, ça, c'est une association de marques qui était importante et qui arrivait aussi, à mon sens, à un moment important. Ceci dit, si tu continues comme tu fais en ce moment, pour les 6 prochaines années, c'est sûr que tu vas faire un gros bond vers l'avant après la Coupe du Monde. Mais ce sera jamais ce que ça pourrait être. Donc, moi, mon souhait, c'est vraiment qu'il y ait un travail qui est fait en amont pour que ça explose en 2026 plutôt que juste créer une certaine découverte comme c'était le cas en 94. Parce que pour moi, en 2026, là, on n'est plus au stade de la découverte. Il faut que ça soit une genre de shot de stéroïdes pour que vraiment accélère rapidement tout de suite après cette Coupe du Monde.
On va espérer que le Canada soit plus prêt que l'impact l'a été quand Didier Drogba est arrivé.
Ben,
parce que c'est un petit peu ça
c'est exactement qui le même va parallèle. Se passer. Là. Absolument. C'est le même parallèle que je ferais. Puis c'est pour ça que je te dis que j'ai une petite crainte, mais qu'en même temps, je me sens assez confiant par rapport au timeline. 6 ans, ça te donne le temps de réagir en ce moment.
c'est de trouver les bonnes personnes. Puis je pense que c'est de trouver également, comme tu le disais, les gens qui l'ont déjà fait. Là, faut pas falloir qu'on s'improvise à savoir exactement comment organiser une Coupe du Monde, peut-être avec les gens ici au Canada. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait ailleurs, qui pourraient peut-être venir donner des conseils aux organisateurs, aux gens qui vont être en charge de ça.
Des personnes pour moi, c'est trouver les bonnes personnes pour faire ce dont on a besoin. Puis pour moi, au Canada, là, t'as un entraîneur qui a quand même mis des choses en place, John Herdman, qui a eu beaucoup de succès avec les filles, qui est à la barre des gars maintenant. T'as des jeunes joueurs qui sont en train d'exploser sur la scène internationale. Jonathan David, un gars de Ottawa qui est en Belgique. T'as Alfonso Davies, un ancien de Vancouver, clairement, qui est en train d'exploser au Bayern Munich, un des meilleurs clubs sur la planète. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Mais communication, marketing, c'est là que t'as besoin de gens de qualité. Est-ce que c'est obligé d'être des gens qui viennent de l'extérieur? Peut-être pas. Moi, quand j'étais à l'Impact, à l'époque, il y a Yvan Delia La Victoire qui a mis en place, on lui a donné cette mission-là, mais il était en charge de créer du contenu numérique à une époque où on cherchait encore nos repères un petit peu, là, de 2010-2011. On naviguait toujours à vue à ce moment-là dans la création de contenu. Puis Yvan, c'est un gars que j'admire beaucoup. On a des personnalités presque totalement opposées, mais j'admire énormément son travail. J'ai eu l'occasion de collaborer avec lui à une couple de reprises. Et tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y avait un leg de Didier Drogba? Ma réponse, c'est non, parce qu'il n'était pas en charge dans l'EC1. Yvan, lui, tu vois encore l'empreinte de ce qui avait commencé à cette époque-là sur le contenu numérique que l'Impact produit, qui est super intéressant. Et je pense que c'est ça que le Canada doit trouver. Ces personnes-là qui vont, même s'ils sont pas là en 2026, qui vont placer les bases là, qui vont faire qu'on est prêt dans 6 ans.
Intéressant. Oli, je voudrais terminer avec des petites questions personnelles.
Vas-y.
Okay. Moi, j'aimerais ça savoir, on a parlé un petit peu plus tôt dans le début du podcast, bon, comment ta carrière évoluait en tant qu'animateur, en tant qu'analyste soccer. Olivier Brett, sur le long terme, où est-ce qu'il se voit? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être davantage faire des conférences? On parlait peut-être un petit peu tantôt que t'aimais le volet d'animation, peut-être même dans des sphères différentes que le soccer. Mm-hmm. Parle-moi un petit peu comment tu vois ton horizon personnel, 10, 15, 20 prochaines années.
Je tiens à continuer à travailler dans les médias. Dans quel rôle exactement? Je le sais pas, parce que je te dirais que en ce moment, je suis à un endroit où on me permet de tester des trucs, puis je suis en train de découvrir encore ce qui me plaît, ce qui plaît à mes employeurs, puis ce qui plaît aux gens qui écoutent. Mais oui, les médias, c'est toujours quelque chose que je veux faire. J'ai pas l'intention de faire encore 2-3 années de soccer, par exemple, puis dire, ben, je mets une croix là-dessus. Pour mes conférences, ça, je te dirais que c'est une des choses qui me passionne le plus parce que le travail avec les parents d'athlètes qui, à mon sens, ont tellement été pointés du doigt au cours des 10, 15, 20 dernières années, tout ce qu'on entend, c'est les parents dans le sport, le hockey, c'est un exemple parfait, c'est un problème. C'est un problème à écarter et moi, j'ai été coupable de ça. À l'époque où je coachais, j'étais de ceux qui disaient, là, vous êtes parents. Moi, je suis coach. Je viens pas vous dire comment être parent. Venez pas me parler de mon équipe. Restez de votre bord. Je vais rester du mien. Tout va bien se passer. Mais quand je te disais tout à l'heure que depuis 10 ans, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, ça m'a fait prendre conscience que sans l'aide des parents, nos joueurs, nos joueuses, nos athlètes pourront jamais devenir tout ce qu'ils peuvent être si les parents sont sortis de l'équation. C'est une conviction profonde que j'ai et c'est pour ça que j'ai voulu commencer à travailler avec les parents pour en faire des alliés plutôt que des ennemis dans les organisations sportives. Et si tu me parles d'objectifs, ben moi, ce que je vois dans 5 ans, c'est l'exemple que je donne pour faire comprendre aux gens que je veux vraiment sortir du carcan, là, tout simple, de travailler avec des gens qui sont dans mon entourage. Moi, je me vois dans 5 ans au Texas avec 3, 4, 5 000 parents de joueurs de football américain qui sont là pour m'écouter donner une conférence parce que tout ce que ça requiert déjà, puis je te dis ça, j'ai aucune idée comment je vais y arriver. Demande-moi le plan de match en ce moment. Il est pas clair pantoute, mais je pense que c'est assez loin de ma réalité en ce moment pour me faire bouger quotidiennement puis me faire avancer vers cet objectif-là. Si j'arrive à faire ça d'ici 5 ans, je te dirais que la passion que j'ai pour cet aspect-là de ma carrière, les conférences avec les parents d'athlètes, ça va être nourri puis pas à peu près.
Intéressant. Puis, quand tu viens de le dire, on en a parlé également dans des conversations différentes, que dans les dernières années, tu as travaillé sur toi-même. Tu as également tu t'intéresses beaucoup plus au volet affaires. Tu me dis que tu avais travaillé beaucoup sur toi là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies présentement, toi, Olivier Brett, d'améliorer le plus? Est-ce que c'est au niveau personnel, là? Est-ce que c'est davantage ta présence en ligne? Ton volet, tu me parlais également que tu n'as pas d'agent, toi. Tu négocies tous tes contrats tout seul parce que tu veux travailler un petit peu ton volet de négociation. Donc, parle-moi un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu essaies le plus d'améliorer au niveau affaires, au niveau personnel présentement?
Je te dirais que c'est... au début 2019, au début de l'année, j'établis toujours mes objectifs pour l'année à venir. Puis début 2019, un de mes gros objectifs, puis tu vas me dire que j'étais bien en retard, puis t'aurais tout à fait raison, c'était de me lancer pour vrai sur Instagram parce que j'ai été quelqu'un qui est arrivé très, très tard sur la plateforme. Je te parlais de découvrir ce qui peut être des embûches ou des freins à mon développement puis à ma croissance. Ben ça, c'en était un. Je connaissais pas bien la plateforme. Je comprenais pas pourquoi moi j'aurais quelque chose à apporter à cet univers-là. Donc, j'y ai pas donné d'attention pendant des années. J'ai essayé de changer mon mindset par rapport à ça et ma présence sur les réseaux sociaux, je te dirais que oui, c'est la chose principale en ce moment parce que Instagram m'a servi à expliquer aux gens tout ce que je suis. La palette complète d'Olivier. Parce que sur Twitter, j'ai, je pense, je sais pas, 12, 13 000 followers. Donc, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui parle presque exclusivement de soccer ou de sport sur cette plateforme-là. Sur Facebook, c'est plus personnel, c'est plus la famille un peu. Puis là, quand je suis arrivé sur Instagram, j'ai pris une décision intentionnelle d'ouvrir la palette au complet. Mes champs d'intérêt par rapport aux parents, mes champs d'intérêt par rapport à ma croissance personnelle. Évidemment, il y a la famille puis le travail qui embarque là-dedans aussi, mais ça donne un aperçu complet de ce que je suis. Et mon grand défi, puis ce que j'essaie encore de comprendre, c'est comment je suis capable de produire du contenu, mais que ça soit pas pour montrer ce que moi je vis, mais plutôt que ça serve les gens qui consomment ce contenu-là. Parce que personnellement, je consomme très peu de contenu qui est juste pour me présenter la vie des autres s'il n'y a pas quelque chose de divertissant ou d'instructif que moi j'ai à retirer là-dessus. Donc ça, je te dirais que c'est le gros défi que j'ai en ce moment, de m'assurer. Des fois, ça me fait ralentir un peu trop, puis je produis pas, alors que des fois, juste produire un petit peu, ça pourrait être aussi bénéfique. Mais je sens vraiment le besoin. Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, l'animation, si j'ai pas le sentiment de contribuer quelque chose, d'avoir une plus-value pour les gens qui sont à l'autre bout, qui écoutent ou qui consomment, ben j'ai tendance à dire, tu sais quoi, laisse ça à quelqu'un d'autre. Puis c'est là-dessus que je suis en train de travailler sur les médias sociaux en ce moment.
Intéressant. Oli, je voulais savoir, là, on est en période de confinement, malheureusement. Donc, on enregistre le podcast aujourd'hui. On est le 21 avril 2020 pour les gens qui vont peut-être l'écouter plus tard. Donc, c'est ça, on est un peu pogné chez nous, c'est le terme qu'on va utiliser. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit, toi, des livres? Est-ce que t'es un lecteur? Puis peut-être que tu as plus de temps même pour lire en ce moment. Puis si oui, ça a été quoi un des bons livres que tu as lu récemment?
Écoute, j'ai une petite de 2 ans et demi. Donc non, je ne lis pas. Ceci dit, je consomme beaucoup, beaucoup de podcasts. Dans le fond, oui, j'ai lu énormément dans ma vie. Surtout, comme je le disais tantôt, depuis 10-12 ans, je lis presque exclusivement des livres sur la communication, la croissance personnelle, l'entrepreneuriat, tout ce qui est mindset, psychologie, influence. Écoute, de Tony Robbins. Un des livres qui a vraiment été une découverte pour moi, ça a été Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Okay. Il était vraiment, vraiment marquant parce que, tu sais, ayant fait toute ma vie dans le soccer, ayant un bac en histoire, le côté entreprise ou le côté des affaires, en fait, puis tout ce que ça peut t'apporter comme personne, parce que t'es obligé de grandir, t'es obligé de gérer tes émotions, t'es obligé de te vendre à quelque part. Tu parlais tantôt que j'ai pas d'agent. C'est un choix très conscient que j'ai fait parce que je vais lui demander quoi à mon agent? De vendre quoi exactement? Si moi je suis pas clair là-dessus en partant, ben j'ai beau engager quelqu'un, c'est pour vendre quelque chose que j'ai même pas défini. Donc, ça s'inscrit un peu dans cette réflexion-là, puis ça a été un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux, puis après ça, j'en ai lu une tonne. Oui. Mais c'est surtout des livres comme ceux-là. Je te dirais que le roman se fait très, très rare chez nous.
Oh oui. Ah, je te comprends. Regarde, je suis pareil que toi. Moi, les livres que je veux lire, ça va être des livres d'éducation, de développement personnel. Tu as parlé de podcast. T'écoutes beaucoup de podcasts. Es-tu capable de m'en mentionner un récemment? Tu dis business. Peut-être que t'en as des podcasts de sport également. Ce serait quoi que t'écoutes un peu?
Il y en a deux. Hier, je me suis tapé quelques épisodes de Sports Dad Hub, qui est un sportsdadhub.com. Un gars qui fait qui a sensiblement la même mission aux États-Unis pour les parents. Il touche pas mal au coach, chose que moi je fais un petit peu moins, mais j'aime son contenu. Puis d'un point de vue développement personnel, j'ai écouté beaucoup au cours de la dernière année de Gary Vee. C'est un des podcasts que j'ai pas mal écouté. Sinon, comme je te dis, à la pièce, là, je vais souvent sur YouTube écouter des choses sur des sujets peut-être un petit peu plus pointus. Mais je te dirais qu'au cours de la dernière année, curieusement, sachant que j'ai commencé à produire plus de contenu, j'en consomme un peu moins. Alors qu'avant, le temps que je passais à lire, c'était du temps où je passais pas à me poser la question, ce serait quoi ma prochaine publication ou mon prochain vidéo que je construirais moi-même, parce que c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Toutes mes vidéos, je les publie et je les produis plutôt moi-même. Donc, disons que quand je suis en mode de production, je suis un peu moins en mode lecture ou écoute de podcast.
Consommation de contenu, exact. Effectivement. OK, cool. Oli, c'était fascinant. Comme je te l'ai dit, c'était quasiment juste pour moi aujourd'hui que je faisais, juste pour moi. Je pense que beaucoup de gens qui vont l'écouter aujourd'hui vont bénéficier de notre entretien, mais j'étais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur le développement du soccer au Québec. Puis avant de te laisser partir, où est-ce que les gens peuvent en apprendre un petit peu plus sur toi? Parce que présentement, ça va être difficile de t'écouter à RDS pour des raisons qu'on comprend. Il n'y a pas beaucoup de couverture sportive. Tu parlais de médias sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre?
Sur Twitter, en commercial, Olivier barre de soulignement, Brett. Sur Instagram, c'est en commercial, Olivier Brett. TikTok, peux-tu croire? Je suis rendu sur
TikTok
aussi. Olivier Brett aussi. Puis j'ai un site web qui sera disponible sous peu, olivierbrett.com. Je te parlais tout à l'heure de temps passé à produire. Ça, c'en est un bon exemple. Le site web va être disponible pour voir un petit peu l'éventail de ce que je fais, de ce que j'ai à offrir pour les gens qui sont intéressés à me suivre davantage ou peut-être collaborer avec moi. Donc, olivierbrett.com, ça s'en vient très, très bientôt.
Bon, je vais mettre les liens dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Oli. Puis sur ce, pour tous les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 26e épisode de Hypercroissance vous a autant intéressé que moi. En étant moi-même un grand amateur de soccer, j'ai trouvé fascinant les propos de Olivier sur l'évolution que l'Impact de Montréal a dû avoir dans les dernières années afin de se présenter comme un club de premier plan. Également, je me croise les doigts afin qu'on ait la chance d'aller au stade cet été voir l'Impact jouer. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.